France Culture.
On fait le point sur l'information, c'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. La panique sur les marchés au lendemain de la guerre commerciale lancée par Donald Trump, c'est partout l'affolement. On verra jusqu'à quel point les mesures annoncées par le président américain sont susceptibles ou non de ralentir l'économie mondiale. On se rendra aux États-Unis pour constater la fronde de certains sénateurs. On tâchera également de détailler comment pourrait s'organiser la riposte, et notamment en France. Enfin, avec notre invité, l'économiste Charlotte Emlinger, on s'interrogera sur le changement de paradigme induit par Washington. Assiste-t-on à la fin de la mondialisation telle qu'on l'a vu se mettre en place à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale? L'actualité en France, c'est notamment le parcours chaotique du projet de réforme de l'audiovisuel public à l'Assemblée, déjà hérissé d'obstacles. Son examen en commission devrait ne reprendre que la semaine prochaine. Enfin, le groupe Bayer au tribunal face à un adolescent handicapé exposé in utero au glyphosate. Nous serons au palais de justice de Vienne où l'audience a débuté ce matin. Depuis la roseraie de la Maison-Blanche et après une introduction en musique, Donald Trump a donc fini par déplier hier sa carte d'état-major en même temps que dévoiler son plan de bataille, soit une nouvelle salve de taxes douanières exorbitantes, les plus élevées depuis un siècle, synonyme de déclaration de guerre commerciale d'envergure planétaire. Au moins 10% applicables pour tout le monde, et ce dès samedi, qui s'ajouteront aux taxes déjà mises en place par l'administration américaine, mais dont on ne sait pas très bien s'il faudra en plus les additionner aux tarifs annoncés individuellement, 34% par exemple pour la Chine, 26% pour l'Inde, 24% pour le Japon, ou bien encore 20% pour l'Union européenne. Alors comme on pouvait s'y attendre, cette annonce a suscité une condamnation unanime des dirigeants internationaux confrontés à la perspective d'un véritable bouleversement de l'ordre mondial façonné par des décennies de libéralisation du commerce. Mais pas seulement, puisque les marchés se sont réveillés sonnés ce matin. Mathilde Cariou, bonjour.
Bonjour.
Dégringolade des bourses, chute du dollar, les cours du pétrole glissent eux aussi. En revanche, l'or refuge s'envole.
Effectivement, les bourses accusent le coup ce matin. Donald Trump a tout de même tapé fort et sur tout le monde, à l'exception de quelques pays comme le Royaume-Uni. Mais en fait, ces annonces, elles étaient attendues. Ce jour de la libération annoncé, théâtralisé. Et donc, finalement, la chute n'est pas si violente, nous dit Alexandre Baradez, analyste des marchés pour la société IG.
Quand on parle de choses très violentes, c'est par exemple si nous avions 10-15% de hausse de la volatilité ce matin sur les places européennes, c'est pas le cas. C'est quelques pourcents de hausse de volatilité, mais parce que il y a aussi eu, encore une fois, une anticipation. Donald Trump avait tellement fait monter la sauce depuis déjà plusieurs semaines sur l'événement que on avait déjà vu des marchés américains perdre 10% depuis leur sommet. On a des marchés européens également, le CAC, le DAX, depuis 15 jours, qui étaient repartis à la baisse. Donc il y avait une anticipation quand même de l'événement.
Ce qu'on constate ce matin, c'est un recul mécanique des secteurs a priori les plus touchés, le luxe par exemple avec LVMH qui perd 4% de sa valeur sur le marché européen, les constructeurs automobiles aussi, on a notamment Toyota qui recule de 6,3% parce que sa chaîne de production est étalée sur plusieurs pays en Asie et plusieurs pays particulièrement visés par les taxes de Donald Trump. Et puis le marché des devises est touché également, mais là c'est le dollar qui recule parce que les mesures protectionnistes vont forcément créer de l'inflation aux États-Unis. Alexandre Baradez.
Dans l'esprit des investisseurs, ce qui se passe aux États-Unis est plus à risque pour l'économie américaine elle-même que pour l'économie chinoise ou l'économie européenne. Et c'est ça qu'on est en train de voir se former sur les marchés comme scénario depuis déjà maintenant 3 mois.
On a donc l'euro qui remonte ce matin, reprend plus de 1% par rapport au dollar. Pareil pour le yen et la livre sterling. Quant à l'or, valeur refuge prisée dans ce contexte troublé, elle atteint des sommets historiques.
Merci Mathilde Cariou. Alors on a bien compris qu'en mettant ainsi un terme à des décennies de développement économique basé sur le commerce international, Donald Trump a ouvert une période de grande incertitude, même si selon lui toutes ces mesures protectionnistes devraient provoquer in fine une forte croissance de l'industrie manufacturière nationale et forcer les entreprises étrangères à investir aux États-Unis. Sauf que les chiffres avancés par le locataire de la Maison-Blanche paraissent le plus souvent sans grand fondement, mais surtout en ouvrant inévitablement une ère de protectionnisme. Et bien partout, les prix risquent de partir à la hausse et au final ce sont les consommateurs qui paieront, y compris aux États-Unis. Camille Manière, bonjour.
Bonjour Thomas.
Vous êtes en direct d'Atlanta. Quelles sont, Camille, les réactions ce matin outre-Atlantique, que ce soit chez les politiques comme dans le milieu des affaires ?
Eh bien, du côté des marchés financiers, hein, vous l'avez évoqué, la réaction ici a été une contraction des marchés assez claire. Ça montre bien tout de même, hein, la surprise des milieux économiques américains face à l'ampleur des droits de douane. Et puis les interrogations aussi sur la méthode utilisée pour aboutir à de tels chiffres pays par pays. Le tout qualifié de désastre par un analyste financier de Wall Street, avec des craintes exprimées à nouveau de voir l'économie américaine entrer en récession d'ici à la fin de l'année. Côté politique, Chuck Schumer, le leader de la minorité démocrate au Sénat, parle d'une guerre commerciale qui va apporter le chaos à l'Amérique et va coûter plus de 5 000 $ par an à la famille américaine moyenne à cause des prix, hein, qui vont augmenter mécaniquement, et d'accuser le président Trump de vouloir utiliser l'argent que ces taxes douanières vont rapporter à l'État fédéral pour accorder des baisses d'impôts, je cite, à ses amis milliardaires. Les démocrates ont d'ailleurs fait voter hier une résolution au Sénat pour contrer les droits de douane qui vont s'imposer au Canada voisin, en contestant la notion d'urgence nationale que la Maison-Blanche invoque pour les imposer. Pour obtenir cette majorité, les démocrates ont réussi à mobiliser quelques voix d'élus républicains qui ont osé critiquer publiquement cette politique par crainte des conséquences qu'elle va avoir à court terme sur le portefeuille de leurs électeurs et donc sur leurs chances de réélection l'an prochain. La résolution est plus symbolique qu'autre chose, il faut le dire, mais elle montre qu'il y a des doutes, hein, des voix qui s'opposent à l'administration Trump, même dans les rangs conservateurs, sur ce sujet des droits de douane.
Merci Camille Magnard en direct d'Atlanta. Alors toujours après les annonces de Donald Trump, Emmanuel Macron se rendra lui cet après-midi au chevet des filières françaises, plus ou moins affectées mais surtout inquiètes. Jeanne Serrin, bonjour.
Bonjour Thomas.
Le chef de l'État réunira à 16h à l'Élysée donc les représentants des secteurs économiques concernés, et on connaît, Jeanne, la liste des participants à cette réunion.
Oui, les organisations patronales, hein, le MEDEF, la CPME notamment, mais surtout, vous l'avez dit Thomas, les premiers concernés par les annonces de Donald Trump, à commencer par des représentants de l'aéronautique, secteur majeur puisqu'ils consacraient encore l'année dernière 1/5 de nos exportations vers les États-Unis. Le patron d'Airbus, Guillaume Faury, confirme sa venue à l'Élysée cet après-midi. Autour de lui, la filière de l'industrie, de la chimie et puis celle de l'automobile, visée elle spécifiquement par une surtaxe de 25% sur toutes les voitures importées depuis l'Union européenne. Et puis Mathilde vous en parlait tout à l'heure, LVMH sera aussi présent cet après-midi, entouré d'autres représentants de la mode française, du textile, des chaussures. C'est 8% de nos exportations outre-Atlantique. Parmi les plus inquiets qu'Emmanuel Macron tentera de rassurer, la filière des vins et spiritueux, troisième secteur français d'exportation aux États-Unis. Lors de son premier mandat, Donald Trump avait déjà porté un coup important aux entreprises viticoles en les assommant d'un tarif douanier de 25%, ce qui a conduit à 500 millions d'euros de chiffre d'affaires en moins, estime ce matin un des représentants de la filière, qui précise que cette fois-ci, si cette taxe de 20% se confirme, elle s'appliquerait à l'ensemble des produits, au champagne et au cognac. Il anticipe donc déjà une perte d'1 milliard d'euros pour l'ensemble du secteur. Alors ces nouveaux tarifs signent-ils pour la filière viticole ainsi que pour les autres la fin d'un marché ou l'arrêt de mort ? Difficile de l'évaluer encore à ce stade.
Merci Jeanne Serrin. Et pour continuer d'évoquer toujours et encore donc cette nouvelle guerre commerciale voulue par Donald Trump, invité à présent de la rédaction, Charlotte Emlinger, économiste spécialiste de politique commerciale au Centre d'études prospectives et d'information internationale. Bonjour madame.
Bonjour.
Peut-être pour bien mesurer donc l'importance des mesures annoncées hier par Donald Trump, faut-il d'abord réexpliquer dans quelles conditions les pays peuvent imposer des droits de douane à leurs frontières. Aujourd'hui, ce sont les règles de l'OMC qui prévalent, du moins normalement.
Oui, donc on peut dire dans le monde d'avant, le commerce international était régi par les règles de l'OMC, qui elles-mêmes sont basées sur des principes qui datent d'après la Seconde Guerre mondiale. Ces principes, ils sont essentiellement basés sur le fait qu'un pays n'a pas le droit de mettre des droits de douane, d'augmenter ses droits de douane au-dessus d'un certain seuil. Il s'engage pour chaque produit à ne pas exporter, à pas mettre des droits de douane au-dessus d'un certain montant. Et d'autre part, il s'engage également à ne pas faire de discrimination envers ses différents partenaires commerciaux.
Là, en l'occurrence, l'administration américaine a choisi d'annoncer des taux différents selon les pays d'importation, en visant prioritairement d'ailleurs la Chine et puis certains pays d'Asie, l'Union européenne également. Ça veut dire que là, on sort complètement des règles qui définissaient l'OMC ?
Alors complètement, c'est-à-dire que sur les deux points en fait. D'une part, les États-Unis augmentent leurs droits de douane sans forcément qu'il y ait de raison. puisqu'il peut y avoir des raisons à l'OMC pour augmenter le droit de douane, pour lutter contre du dumping, par exemple, mais là, il n'y a pas de raison. Et l'autre grande rupture, c'est le fait de mettre des droits de douane différents selon les pays. Donc, on a des grands débats sur pourquoi ces différents montants. Donc, il dit que c'est des droits réciproques. En fait, les calculs sont basés sur les déficits commerciaux que les États-Unis ont avec chaque pays. Donc les droits sont d'autant plus élevés que le déficit commercial, voilà, entre par exemple les États-Unis et le Vietnam, le déficit est élevé, donc le montant est élevé. Ça, c'est vraiment une rupture importante. Donc on peut dire que vraiment on met par terre toutes les règles et tout le fondement qui régissent le commerce international depuis 80 ans maintenant.
Ça concerne donc les règles internationales. En quoi les mesures annoncées par Donald Trump marquent-elles un tournant important aussi dans la politique commerciale américaine cette fois-ci?
Alors, les États-Unis donc font partie, ils ont fait partie du GATT et de l'OMC depuis la création, et donc ils ont des droits de douane à l'entrée qui sont faibles en fait, qui sont autour de 2-3% en moyenne. Donc c'est quand même un pays qui avait jusqu'à présent des droits de douane relativement faibles, et donc c'est vraiment un bouleversement majeur, je dirais, pour les États-Unis de mettre des droits de douane à des niveaux aussi élevés. Alors, il ne faut pas croire que c'était faible comme ça pour tous les secteurs. Il y a des secteurs, par exemple dans le textile, c'était un peu plus élevé, autour de 10%. Pour certains produits alimentaires, 9%. Mais globalement, c'est un pays qui a des droits de douane faibles. Et donc, c'est vraiment un gros bouleversement, le fait de mettre ces droits de douane très élevés subitement. En plus, voilà, très différents selon les pays. Et alors, avec quelques exceptions, hein, en particulier sur les minerais critiques que les États-Unis ont besoin d'importer. Donc, on voit qu'il y a quand même là-dedans un début de réflexion sur certains produits qu'il faut exclure. Mais c'est sûr que c'est quelque chose qui va avoir un bouleversement important sur les marchés. Donc, vous en avez parlé, hein, sur les prix, clairement. Les consommateurs américains vont subir une très forte poussée inflationniste pour tous les biens de consommation.
Ce matin, Ursula von der Leyen dénonce les conséquences désastreuses de cette décision. La présidente de la Commission européenne appelle donc à trouver d'autres solutions par la négociation. Est-ce que l'Europe a les moyens d'éviter cette escalade commerciale?
Alors justement, l'Union européenne, elle est quelque part un peu sur une ligne de crête, parce qu'il s'agit à la fois taper du poing sur la table pour montrer que l'Union européenne ne se subit pas juste la politique américaine de la sorte. Mais d'un autre côté, il faut aussi éviter la surenchère et voilà l'escalade, puisque Trump a aussi dit que s'il y avait des mesures de représailles, les autres pays, enfin eux-mêmes, en mettront. Et donc le risque, c'est vraiment un engrenage de politique commerciale. Donc l'Union européenne, jusqu'à présent, avait déclaré qu'elle mettrait des représailles juste pour ce qui a été fait pour l'aluminium et l'acier, qui devrait s'appliquer le 12 avril, mais clairement, une fois qu'on a dit ça, et vu l'ampleur des droits qui ont été déclarés hier soir, l'Union européenne va devoir mettre des mesures beaucoup plus importantes. Et donc peut-être aller même plus loin que juste des droits de douane sur les biens, peut-être quelque chose sur les flux de services ou les revenus d'investissement, toucher à la propriété intellectuelle. Donc je pense que là, actuellement, les différents pays européens se rencontrent pour discuter de cela. Et on va voir dans quelques jours qu'est-ce que ça va faire.
Et le commissaire européen au commerce parlera demain à ses homologues américains. Une dernière question après les annonces. Donc de cette nuit, quels sont selon vous les principaux points qui resteraient à clarifier quant à la mise en œuvre de ce plan américain?
Donc comme on disait tout à l'heure, c'est pas très très clair exactement ces droits de douane, comment ils vont être mis en place. Et en fait, ce qui est intéressant dans la déclaration de Trump, c'est aussi de voir qu'il montre que c'est vraiment une approche. Et je pense que dans la rupture, c'est ça aussi qui est important à souligner. Il y a vraiment une rupture dans le sens où les droits de douane sont vus maintenant comme un moyen, enfin une approche transactionnelle. C'est-à-dire, il dit, je vais mettre des droits de douane comme ça, mais je suis ouvert. Si les pays sont gentils avec les États-Unis, je les baisserai. Et donc c'est ça qui est vraiment très surprenant et que maintenant on va pouvoir regarder de près. Comment les différents pays vont réagir. Peut-être que par secteur, il va y avoir des exemptions. On a vu, il a mis déjà des exemptions sur certains produits. Peut-être qu'il va en mettre sur d'autres. Pour certains pays qui sont les amis de l'Amérique, ça sera différent. Donc voilà, il y a encore beaucoup de choses qui risquent de changer. Et pour conclure, juste dire que, en fait, tout ceci, surtout, ça fait de l'incertitude. Vous l'avez dit tout à l'heure en parlant des marchés. Donc de l'incertitude très forte, encore plus du fait de cette approche d'utiliser les droits de douane comme un moyen de négocier avec les différents pays pour des sujets pas forcément économique.
Et on terminera par ces mots. Merci Charlotte Emlinger, économiste spécialiste donc de politique commerciale au Centre d'études prospectives et d'information internationale, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Loïs Guérin pour la préparation.
Morceler la bande de Gaza pour contraindre le Hamas d'accepter de libérer plus d'otages.
C'est ainsi que le gouvernement israélien justifie aujourd'hui le bombardement incessant de l'enclave assiégée et dévastée en même temps que la poursuite de son opération terrestre, quitte à semer à présent le doute sur l'objectif final recherché, pourquoi pas la réoccupation de la majeure partie du territoire palestinien. Et tandis que les Gazaouis cherchent donc en vain un refuge, Benjamin Netanyahou a lui trouvé une terre d'accueil chez son indéfectible et meilleur ami européen, le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, avec lequel il entretient une amitié sans ombre, nourrie par un socle patriotique commun et surtout une même approche illibérale du pouvoir. D'ailleurs, en dépit de l'obligation légale de Budapest et de sa responsabilité envers les autres États parties de la Cour pénale internationale d'arrêter Benjamin Netanyahou en vertu du mandat émis contre lui pour crime de guerre et crime contre l'humanité, eh bien Orban a promis à Bibi qu'il ne serait pas inquiété ou quand, après avoir déjà piétiné le droit international, les deux hommes narguent désormais ensemble la justice internationale. Dans ce contexte relativement délétère qu'on évoquait donc depuis le début de ce journal, le secrétaire d'État américain lui a attendu aujourd'hui à Bruxelles. Marco Rubio se rendra au siège de l'OTAN, en l'occurrence les pays européens membres de l'alliance malmenée par la nouvelle administration Trump, espère encore être rassuré sur l'engagement à long terme des États-Unis, sauf que pour cela, ils vont certainement devoir payer davantage, sans compter que la nouvelle salve de droits annoncée hier ne devrait pas être de nature à les rassurer sur l'obligeance de Washington, pas plus que le rapprochement spectaculaire ces dernières semaines entre les États-Unis et la Russie à ce titre, d'ailleurs, et malgré les concessions accordées par Donald Trump à Vladimir Poutine, les pourparlers de paix restent très largement enlisés au point que la seule vraie avancée notable reste pour l'heure la progression sur le terrain des forces de l'envahisseur russe.
Midi et 45 minutes sur France Culture, la suite de votre journal Thomas Cluzel.
Le comportement de Rachida Dati menace-t-il l'examen de la réforme de l'audiovisuel public, à peine entamé l'examen du texte en commission qui prévoit, on le rappelle, la création d'une holding qui chapeauterait à la fois France Télévisions, Radio France et l'INA sous l'autorité d'un ou d'une présidente a été suspendue une première fois mardi, puis une seconde fois le lendemain. À présent, les travaux ne devraient reprendre que lundi, mais rien n'est moins sûr. Stéphane Robert, bonjour.
Bonjour Thomas.
Ça peut dire que les discussions donc se passent mal. Tout est parti, en l'occurrence Stéphane, d'une altercation entre la ministre Rachida Dati et une fonctionnaire de l'Assemblée.
Oui, mardi, avant-hier, en tout début de soirée, la ministre de la Culture Rachida Dati venait de déposer un amendement de réécriture d'une partie de la loi sur l'audiovisuel public. L'administratrice de la commission, devant laquelle se déroulaient les débats, avait indiqué que l'amendement de la ministre n'était pas valable en l'état, qu'il fallait le réécrire. À ce moment-là, la présidente de la commission suspend la séance pour satisfaire un besoin pressant. La ministre en profite alors pour aller voir l'administratrice et pour la sermonner avec des propos très humiliants et rabaissants. Selon un député qui se trouvait juste à côté, l'administratrice s'en trouve très affectée. Le député prend sa défense, il rappelle à Rachida Dati qu'un ministre n'a pas le droit de s'adresser aux fonctionnaires de l'Assemblée au nom de la séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif. Dati s'emporte alors également à l'encontre du député. C'est à ce moment que la présidente de la commission revient. Elle demande à tout le monde de se calmer, se fait expliquer ce qui s'est passé, puis en réfère à la présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet. Il est décidé de suspendre la séance pour calmer les esprits. Le lendemain après-midi, hier donc, une réunion de conciliation est organisée avec la présidente de la commission, de l'Assemblée, la ministre et l'administratrice. Puis les travaux de la commission reprennent. Il est demandé à Rachida Dati de s'excuser d'avoir perturbé la séance la veille. Mais Rachida Dati s'emporte encore une fois, affirme que la veille il ne s'est rien passé. Et d'ailleurs que l'administratrice aurait reconnu lors de la conciliation qu'il ne s'était rien passé. C'est un nouveau pataquès. Les larmes montent aux yeux de l'administratrice qui sort de la salle. La séance est à nouveau interrompue. Cette affaire a donné lieu à une réunion hier soir à Matignon entre Rachida Dati et le Premier ministre. Celle-ci n'a rien donné. La commission des affaires culturelles doit se réunir à nouveau lundi, mais les députés ne souhaitent pas que la ministre soit présente. Par conséquent, on ne sait pas si les travaux reprendront. Si ce n'est pas le cas, l'examen de la proposition de loi reprendra en séance cette fois jeudi prochain et on repartira du texte du Sénat en ne tenant pas compte des travaux de la commission des affaires culturelles.
Merci Stéphane Robert.
Le bras de fer a lieu en ce moment même au tribunal de Vienne et il est inédit.
Un face-à-face qui oppose d'un côté le géant allemand Bayer Monsanto, fabricant notamment du glyphosate, et puis de l'autre une famille qui accuse l'herbicide utilisé par la mère pendant sa grossesse d'être responsable des malformations de son fils Théo, aujourd'hui âgé de 17 ans. La justice va devoir trancher. L'audience a débuté un peu avant 11h ce matin, audience suivie par Laurent Gallien de ICI Isère.
Les obstacles face à la famille Grataloup sont nombreux. Si la science continue à débattre des conséquences d'une exposition au glyphosate, le droit a aussi ses arcanes. La maman de Théo n'a pas utilisé du Roundup, marque de Monsanto, mais du Glipper, cofabriqué par Monsanto, disent les Grataloup. Autre entité juridique, répond Monsanto, devenu Bayer. 14 autres groupes commercialisent du glyphosate depuis 2020. Et puis pour la mise en cause, il faut démontrer une défectuosité, une faute et son lien de cause à effet. Or, même l'exposition n'est pas prouvée. La défectuosité, c'est le mensonge initial de Monsanto sur la dangerosité du glyphosate, disent les avocats des Grataloup. Quant au lien chez une femme qui ignorait alors être enceinte, il est prouvé par l'absence de toute autre explication médicale aux malformations de Théo. Quelle tromperie, interroge Bayer France, qui souligne ne pas être Bayer Belgique et encore moins Monsanto Monde, autre argutie juridique.
On termine avec un mot du temps pour cet après-midi. Maussade à l'ouest, ensoleillé à l'est. Quant aux températures, elles seront comprises entre 13 et 21 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Waïba Kedash et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.